Alors, le corps de l'article, comme il a été dit, le mot assomption comporte deux choses, le principe de l'action et son terme. Ça, c'est toujours ce que dit saint Thomas par rapport au mot assomption. Il faut bien comprendre ce que c'est qu'assumer. Le principe de l'action et le terme de l'action. Or, le principe d'assomption convient proprement à la nature humaine, à la nature divine, car c'est par sa puissance que s'est fait l'assomption. Être terme, au contraire de l'assomption, ne convient pas en propre à la nature divine, mais seulement à raison de la personne en qui on la considère. Aussi, en toute rigueur de terme, est-ce la personne qui premièrement assume, et ce n'est que secondairement que l'on peut dire que la nature assume à sa propre personne une autre nature. C'est en ce sens que l'on parle de nature incarnée, non pas qu'elle soit convertie en chair, mais parce qu'elle a assumé une nature charnelle. De là cette parole de Damascène, nous confessons avec les bienheureux Athanase et Cyrille que la nature divine s'est incarnée. Comprenez bien, la nature divine s'est incarnée. En réalité, c'est la personne qui s'est incarnée. Hein ? C'est la personne qui a assumé la nature humaine, comme dit saint Thomas. Et alors saint Thomas montre comment on peut. Alors vous voyez, c'est intéressant, c'est parce que c'est pour essayer d'expliquer cette phrase qui fait partie de la tradition. Alors, il s'agit d'expliquer, il s'agit de montrer que ce n'est pas en contradiction avec le mystère, mais que ce n'est pas un langage tout à fait formel. Simplement cette précision que donne saint Thomas. Et ça, c'est intéressant de voir que, de fait, c'est vrai que c'est la nature divine qui a la toute-puissance et qui opère la transformation de la nature humaine. Mais le terme de l'assomption se fait dans la personne et non pas dans la nature. Donc, à proprement parler, quand il s'agit d'une action, c'est le terme qu'on regarde. Donc, à proprement parler, c'est la personne qui assume. Mais on peut dire que c'est la nature qui est incarnée. Alors, si vous voulez, prenons tout de suite, simplement au point de vue précision du langage, la première objection. Assumer, avons-nous dit, c'est prendre à soi. Videtur, natura, divine, non convenit natura. Quia, sicut dictum est, assumere, dicitur, quasi, atse, sumere. On prend vers soi. Hein. C'est l'étymologie, vous voyez, tout à fait particulière. Mais la nature divine ne prend pas à soi la nature humaine, puisque l'union se fait dans la personne et non dans la nature. Il n'appartient donc pas à la nature divine d'assumer une nature humaine. Alors, réponse de saint Thomas. Dans l'expression « prendre à soi », « li se est reciprocum » ut refertur idem suppositum. Alors, dans l'expression prendre à soi, le mot soi est réfléchi et se rapporte au sujet lui-même, au suppos. Hein? On prend vers soi, on prend à soi. Or, la nature divine est identique à ce suppos qu'est la personne du Verbe. C'est pourquoi, quand la nature divine unit la nature humaine à la personne du Verbe, l'on peut dire qu'elle prend à soi cette nature. Par ailleurs, s'il est vrai que le Père unit la nature humaine à la personne du Verbe, cependant, il ne la prend pas pour autant à soi. Car le Père et le Verbe sont deux suppos différents. Aussi, à proprement parler, ne peut-on pas dire que le Père assume la nature humaine ? Ça va de soi. Bien que la nature divine agisse et ce soit la toute-puissance de la nature divine qui, de fait, réalise la chose. Et vous retrouvez les mêmes distinctions, n'est-ce pas, que dans le traité de la Très Sainte Trinité. Il faut bien comprendre que toute action extrinsèque à la Très Sainte Trinité provient des trois. Et cependant, l'union hypostatique se fait dans le Verbe. Et alors, c'est toujours le lien entre le point de vue de la nature et le point de vue de la personne qu'il faut essayer de comprendre. L'action comme telle relève de la nature, et le terme comme tel, ça se termine à la personne. Alors, on voit très bien ce double langage. Le langage, au point de vue, j'allais presque dire, de l'efficience, si vous voulez. Hein. Si on est plus sensible à l'efficience et à la toute-puissance. Et si on est plus sensible au terme, à la finalité. Vous voyez ? C'est pas directement la finalité, mais c'est le terme. C'est quand même le point de vue de l'action et le point de vue du terme. Alors, sous ce point de vue-là, c'est très intéressant. Parce qu'on voit les sensibilités de la causalité efficiente et de la causalité finale. Alors, de fait, la causalité finale n'est mise en pleine lumière qu'avec une théologie qui assume Aristote. Et donc, on ne peut préciser parfaitement le terme de l'Assomption que par ce point de vue de la finalité. Et quand on voit uniquement la question efficiente, on parlera de la nature divine. Article suivant, je crois que ça n'a pas de difficulté, une fois qu'on a compris la différence entre nature et la personne, et qu'on a compris que lorsqu'il s'agit d'une action, on peut regarder l'efficience de l'action ou le terme de l'action. Article 3, la nature peut-elle assumer abstraction faite de la personnalité ? Alors là, ça va être tout à fait particulier. Abstracta personalitate per intellectum natura possit assumere. Essayez de donner la réponse vous-même, in corde, batuum in corde. Bon, c'est toujours intéressant de vous donner vous-même la réponse et puis de voir si ça colle avec saint Thomas. Au bout d'un certain temps, vous verrez si vous avez l'habitus ou si vous ne l'avez pas. Vous verrez que saint Thomas, c'est... Oui, parce qu'autrement on lit comme ça, vous comprenez ? Alors, dites-vous-même, ben, qu'est-ce que je dirais ? Est-ce que je peux dire ça ? Est-ce que je peux dire que la personne, abstraction faite de la personne, assume ? Ou est-ce que assumer est une action nécessairement personnelle ? En Dieu, la personnalité représente une triple propriété personnelle. In divinis personalitas, dicitur proprietas personalis. Quis triplex. Alors voyez, là aussi, au point de vue du langage de saint Thomas, c'est toujours intéressant de voir le point de vue de personnalité. Personnalité chez saint Thomas, ce n'est pas la personnalité psychologique d'aujourd'hui. Hein. Faisons attention, quand on parle de la personnalité aujourd'hui, ce n'est pas ça du tout. Personalitas chez saint Thomas, ce par quoi la personne est personne. Hein. N'oubliez pas, c'est le point de vue abstrait par rapport à la personne. Or, le point de vue abstrait par rapport à la personne, c'est ce par quoi blancheur. Hein. Et il y a toujours ça, enfin, parce qu'autrement, vous ne comprenez pas. Et vous me placez dans un autre point de vue. Donc, en Dieu, la personnalité représente une triple propriété personnelle, à savoir la paternité, la filiation et la procession. Or, si l'on abstrait par l'intelligence ces trois propriétés, il reste encore la toute-puissance de Dieu, par laquelle s'est faite l'incarnation. Selon cette parole de l'ange, il n'est rien d'impossible à Dieu. Évidemment, l'ange n'a pas fait d'abstraction. Il semble donc que même si l'on enlève la personnalité, donc si on l'abstrait, la nature divine peut assumer. Efficience, la toute-puissance. Hein, vous voyez bien. Alors, conclut le corps de l'article. L'entendement peut s'appliquer au divin d'une double manière. Intellectus. J'aime pas beaucoup l'entendement, parce que ça a pris une signification différente depuis saint Thomas. intellectus duplicis erse habet ad divina. Donc, l'intelligence comme telle, n'est-ce pas, peut regarder le divin de deux manières. Uno modo, premièrement, en considérant Dieu tel qu'il est en lui-même. Dans ce cas, il est impossible de saisir par l'intelligence quelque chose de Dieu sans tout inclure de lui. Car tout ce qui est en Dieu est un, sauf la distinction des personnes. Encore est-il que l'une d'elles, enlevée, l'autre l'est également, car elles ne se distinguent que par leurs relations qui ne peuvent être que simultanées. Oui. Pouvons-nous considérer Dieu dans l'unité ? Saint Thomas l'a fait. Quand on considère Dieu dans l'unité, on ne considère pas ces personnes. Donc on ne considère pas le mystère de la fécondité et distinction des personnes. Mais je ne peux pas considérer la nature de Dieu et une personne, c'est-à-dire en ne regardant que la paternité ou en regardant que la filiation. En second lieu, l'intelligence peut s'appliquer au divin pour connaître Dieu à sa manière à elle. Donc ça, c'est intéressant au point de vue critique, hein, au point de vue connaissance proprement scientifique, théologique. Hein. Uno modo, alors je reprends le texte là en latin. Uno modo ut cognoscat Deus sicuti est. Alio modo se habet intellectus ad divina non quidem quasi cognoscant Deum ut est, sed per modum suum. Alors voyez la distinction entre les deux. La réduplication sur la manière dont on connaît. Alors je réduplique sur la manière dont on connaît. Ou au contraire, je regarde ce qui est connu en lui-même. Nous pouvons toujours faire cette distinction, puisque l'intelligence a une autoconscience de ce qu'elle connaît. Elle peut donc regarder ce qu'elle connaît et la manière dont elle connaît. On se regarde dans la glace. C'est ça. Alors, c'est permis de se regarder dans la glace au point de vue philosophique, au point de vue de l'intelligence. C'est l'intelligence a le droit de se regarder connaissant. Et l'intelligence peut regarder ce qu'elle connaît. En second lieu, l'intelligence peut s'appliquer au divin pour connaître Dieu à sa manière à elle. Vous voyez, se habet intellectus ad divina non quidem. J'ai mis, c'est la traduction, c'est très difficile à traduire. Autrement, donc l'intelligence se rapporte vers le divin non quidem quasi. Comme connaissant Dieu en tant qu'il est, c'est per modum suum. C'est-à-dire selon sa manière. Quand je connais Dieu, je connais toujours Dieu selon la manière dont je peux connaître, selon sa manière, non tel qu'il est en lui-même. Elle se représente alors sous des idées multiples et distinctes, ce qui en Dieu est un. En réalité, c'est-à-dire multipliciter et divisim id quod in Deo est unum. Elle connaît d'une façon multiple et divisible, donc idée, c'est pas dans saint Thomas. Hein. Dès que vous trouvez ça, vous pouvez être sûr que c'est pas dans saint Thomas. Ça, c'est des projections cartésiennes, hein. C'est pas ça. Alors elle connaît, oui, parce qu'elle connaît toujours dans un jugement, pas une idée. Le multipliciter et divisim. C'est un jugement, c'est pas l'appréhension. Tandis que quand vous dites idée, c'est l'appréhension. Vous voyez, ça n'a l'air de rien, mais ça fausse un tout petit peu. C'est un manque de précision, ça. C'est le Pereris, parce que le Pereris, il est normand, alors il va vite. Chilichette, multipliciter et divisim, id quod in Deo est unum. Donc on connaît d'une façon multiple et divisée ce qui en Dieu est un. Dans ce cas, notre intelligence peut saisir la bonté, la sagesse divine et les autres attributs essentiels, ce ne sont pas des idées, hein, sans y comprendre les propriétés personnelles, sans y inclure les propriétés personnelles. Donc elle connaît les attributa essentialia, la bonté, la sagesse divine. non intellecta, donc n'est pas connu, n'est pas saisi, le point de vue de la paternité ou la filiation, qui sont dites personalitates, qui sont justement des propriétés personnelles. C'est en ce cas, en ce sens, que faisant abstraction par l'intelligence de la personnalité, que nous pouvons comprendre que la nature assume. Vous voyez la manière dont on peut regarder uniquement l'efficience sans regarder la finalité. Exactement ça. Je peux regarder la toute-puissance de Dieu sans regarder le terme de cette action. Alors je dirais que la nature assume. C'est une façon abstraite de regarder uniquement l'efficience. Je regarde uniquement la toute-puissance et la toute-puissance de Dieu peut assumer. Il n'y a aucune impossibilité à ce que la toute-puissance de Dieu assume. Mais je ne dis pas la manière dont elle assume, parce qu'elle assume par le point de vue de la personne. Donc je fais abstraction du terme. Alors, prenons... Vous voyez ça, j'espère, hein ? C'est assez subtil, ça, c'est évident, c'est la subtilité de la théologie scientifique de saint Thomas. C'est assez subtil, hein, parce que c'est regarder en précisant la manière dont on regarde. Et c'est ce qu'on fait au point de vue scientifique. Au point de vue scientifique, vous donnez tel résultat avec tel appareil. J'ai ce résultat grâce à cet appareil. Si je n'avais pas cet appareil, je ne verrais pas ça. Or, ici, je fais la distinction, ce n'est pas un appareil, mais c'est ma manière de connaître. Ma manière de connaître fait que je peux abstraire. Même quand il s'agit de Dieu, je peux connaître uniquement les essentialia, les propriétés essentielles. Je peux regarder en Dieu uniquement les propriétés essentielles, sans regarder le point de vue le point de vue des personnes. Autrement dit, il est légitime de faire un traité du Dédé ou Uno avant de traiter le traité de la Trinité. C'est légitime. Pas du tout, au contraire. Certains s'opposeront à dire « Mais Dieu est trois, vous regardez l'unité. » Ah, mais il est toujours un. Donc c'est légitime de regarder la simplicité de Dieu sans regarder le mystère d'être. Alors qu'en réalité, la simplicité est donnée dans les trois personnes. Mais étant donné ma manière de connaître Dieu, je peux très bien, mais il faut le savoir. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je fais abstraction de ce que représentent les propriétés personnelles. La petite objection première. Nous avons dit qu'il ne convient à la nature d'assumer qu'en raison de la personne. Mais ce qui convient à une réalité en raison d'une autre ne saurait lui convenir encore une fois supprimer cette autre réalité. Ainsi, le corps visible en raison de la couleur ne l'est plus sans elle. Si donc l'intelligence fait abstraction de la personnalité, il ne paraît pas que la nature puisse assumer. C'est très très joli comme analogie. Hein. Vous voyez, le corps visible en raison de la couleur. Alors vous n'avez qu'à mettre cette petite analogie. Le corps et la couleur. Ceci est visible. Je vois le corps par la couleur. Et vous avez le point de vue de l'analogie entre le point de vue de la nature et la personnalité. Puisque nous avons dit qu'il ne convient à la nature d'assumer qu'en raison de la personne. C'est par la personne que la nature assume. C'est par la couleur que je vois le corps. Vous voyez l'analogie. C'est joli comme analogie. Ça, c'est le théologien qui s'amuse. Mais c'est vrai, c'est très très joli de voir ça, ce point de vue-là. Alors, est-ce que j'ai le droit d'abstraire ? C'est toute la question. Est-ce que je peux abstraire du corps la couleur ? Est-ce que je peux abstraire la personne de la nature ? C'est toutes les lois de l'abstraction. Thomas se pose la question de temps en temps, est-ce que j'ai le droit d'abstraire n'importe quoi ? Ah non ! J'ai le droit d'abstraire certaines choses et pas abstraire d'autres. J'ai le droit c'est la question de la séparation et de l'abstraction. Alors ça, c'est une question grave. Alors voici la réponse. En Dieu, il y a identité entre ce qui est et ce par quoi il est. Alors ça, c'est la vieille distinction qui vient de Boès et qu'il faut bien saisir, parce qu'elle revient constamment dans cette œuvre. C'est pour ça que nous voyons ça. In divinis est idem est, donc le co-est et le quad est. Exprès comme ça pour que vous ayez le parallélisme. Le corps, c'est le quad, hein, et le co, c'est la couleur, dans l'ordre de la visibilité. Parce que quand je vois un visage rouge, je vois le visage rouge, et le visage, c'est le corps, et ce par quoi je vois, c'est la couleur, le co, par lequel je vois le quad. Hein? Le co par le même. Alors, c'est le, ça, c'est une petite astuce de Boès. Il faut bien comprendre. Le co, le quoi. Ce qui est vu et ce par quoi je vois. La raison formelle par laquelle je vois la réalité. Et la réalité vue, c'est matériel par rapport à ce par quoi je vois. Alors. En Dieu, il y a identité entre ce qui est et par quoi il est. Donc, tout ce que l'on attribue à Dieu dans l'abstrait et que l'on considère séparément du reste est nécessairement quelque chose de subsistant, par conséquent est une personne, puisque tel attribut appartient à une nature intellectuelle. Dès lors, de même qu'en posant en Dieu les propriétés personnelles, nous pouvons parler de trois personnes, de même en abstrayant par l'intelligence ces mêmes propriétés, il nous reste encore à considérer une nature divine subsistante et personnelle. Très très intéressant pour se poser la question de savoir, c'est ça qui est intéressant ici, hein. Jusqu'où pouvons-nous aller dans ce domaine-là ? Par là, l'on comprend qu'elle puisse assumer la nature humaine en raison de sa subsistance ou de sa personnalité. Ouais, très très joli ça. C'est très subtil et c'est très beau. Alors, je reviens, le cou et le quad. En Dieu, le cou et le quad ne font qu'un. C'est le propre de Dieu. Je peux dire Dieu est la bonté. Dieu est bon. Tandis que je n'ai pas le droit de dire Pierre est la bonté. Mais j'ai le droit de dire Pierre est bon. Dieu seul est bon. Parce que Dieu seul est la bonté. En Dieu, l'abstrait et le concret s'identifient. Toujours. C'est la grande vision de saint Thomas dans le DDOE. En Dieu, la bonté. L'abstrait, le concret s'identifie. L'abstrait, vous voyez, la bonté. Dieu est la bonté, Dieu est bon. Ça, c'est propre à Dieu. Vous n'avez pas le droit de dire que Pierre est l'humanité et que Pierre est l'homme. Vous avez le droit de dire que Pierre est un homme et Pierre n'est pas l'humanité. Parce que l'humanité, c'est ce par quoi homme est homme. Or, la pierre n'est pas ce par quoi l'homme est homme. C'est un petit jeu, ça, de concept. Hein, vous se réveillez un peu dans les concepts. N'est-ce pas ? Et mettre un peu d'huile pour qu'on arrive à comprendre la différence entre le quoi et le quoi. Ça, faut jongler avec ça, hein, ça fait partie de ces changements de vitesse. C'est les changements de vitesse. Alors évidemment, au début, on se trompe, on met toujours la vitesse arrière quand on veut partir, la vitesse pour arrière. C'est tout le temps. Alors c'est exactement ça. Alors c'est le coup et le quad. Le coup et le quad, c'est l'abstrait, le concret. C'est ce par quoi je connais. Ce par quoi. Par quoi. Si c'est le latin qui vous gêne. Si le coup ne vous dit rien. Et alors c'est par quoi le coup. Et le quad, c'est ce. C'est ceci. Le « ce » qui est connu. « Ce » qui est connu. « Ce » qui est connu. C'est l'aspect matériel comparativement à l'aspect formel. La raison, la ratio formalis. Et ici, c'est ce qui est connu. Oui. Alors, je peux le prendre du côté de la connaissance, je peux le prendre du côté entité. Bon, alors, vous comprenez, couleur et corps, personne et nature. Vous avez pas compris que cette analogie est fausse. C'est ça qu'il montre, hein, en répondant. Cette analogie est fausse. Pourquoi ? Parce que la couleur n'est pas le corps. La couleur est autre chose que le corps. La couleur est une qualité distincte du corps. Et le corps est... C'est le suppôt qui reçoit le point de vue de la couleur. C'est la surface, si vous voulez, qui n'est pas le point de vue de la qualité. C'est l'aspect quantité. C'est plus quantitatif le corps que la couleur. Hein ? Donc il y a une distinction réelle entre les deux. Tandis qu'en Dieu, nature et personne, la nature divine en Dieu implique toujours la personne. Je ne peux pas penser la nature divine, sans penser la personne. Pas nécessairement le Père, pas nécessairement le Fils, mais la personne. Parce qu'en Dieu, le co et le quad sont identiques. Non, il y a une réalité en Dieu qui est sa nature et qui se dit.
Dans ce cas-là, il y a quatre suppôts.
Mais non, il n'y a pas de suppôts.
Mais
non,
il y a quatre suppôts.
Mais voyez, vous réifiez le coup. Vous réifiez le coup, il ne faut pas le réifier. Le coup est saisi essentialitaire de ce même. C'est la petite distinction que saint Thomas fait dans tout traité de la façon primitive. Essentialitaire, la nature divine implique d'être parfaite et de subsister en elle-même. La séité. Qu'est-ce que c'est que la séité ? C'est la nature divine qui subsiste en soi. Si la nature divine subsiste en soi, la nature divine implique la personne. C'est pas bête du tout comme raisonnement. C'est très très joli. Pour pouvoir montrer que, et au fond, quand saint Thomas fait ça, c'est pour pouvoir justifier certains dires. La nature divine assume. Elle est capable d'assumer. Pourquoi ? Parce que l'assomption implique la personne, puisque le terme de l'assomption se fait dans la personne. Eh bien, la nature divine, elle ne peut pas se séparer de la personne. Je peux abstraire par la pensée, selon ma manière de connaître. Je peux abstraire les personnes divines, en tant que personnes divines relevant de la fécondité de Dieu, qui me sont révélées par la foi, mais je ne peux pas abstraire de la nature divine la subsistance. Qu'est-ce que c'est que la simplicité de Dieu ? Dieu est absolument simple. En lui, pas de distinction entre nature et suppôt. Dieu est absolument simple. Si Dieu est absolument simple, en Dieu, il n'y a pas de distinction entre nature et suppôt. Sa nature subsiste. Dieu subsiste en lui-même, dans sa propre nature. Et c'est ça. Donc, il, le co et le quad. C'est pour ça que c'est très, très... C'est ça qui est difficile pour nous, comme le disait. Je comprends très bien que ce n'est pas comme du tout le traité du Christ. Ça présuppose tout le démono, toute la Trinité et tout le traité de la création. Tout le temps. Alors on joue toujours sur les trois claviers. Et nous, les claviers, ils ne sont pas toujours en acte. Mais là, c'est très typique. Hein. C'est tout le traité du De Deuno qui est là présent, le quad et le co. Quand il s'agit de Dieu, quand il s'agit de la nature divine, donc la nature divine implique de subsister. Elle subsiste, et donc je peux dire que la nature assume. Parce que le terme assumer se termine à une personne. On ne dit pas à une personne qui est le Père, non, à une personne. Oui. L'abstraction joue au niveau du notionnel, notionnalitaire, comme il dit dans le traité, et le point de vue essentialitaire. L'abstraction joue en ce sens que je ne précise pas s'il s'agit d'une personne distincte d'une autre personne ou de la personne en tant que c'est la nature qui subsiste. Je n'ai pas le droit d'abstraire la personne, la nature divine, de sa subsistance. Puisque Dieu est absolument saint. Et quand Dieu me croit des locaux, en tout cas. Mais je peux ne regarder que Dieu dans son unité, sans regarder le problème. Ça, c'est assez réel.
C'est directement dit dans l'écriture.
Qu'est-ce qu'il y a? Oh, tout à fait, c'est exactement dans l'écriture. Mais, tout à fait, mais il s'agit de le montrer conceptuellement. Vous voyez, c'est là la différence. L'écriture nous le donne de facto, mais saint Thomas, lui, justifie au niveau conceptuel. Et il montre exactement quelles sont les lois d'abstraction. Oui. Parce que c'est les lois d'abstraction. C'est donné dans le De Trinitate de Boès. C'est dans le commentaire du De Trinitate de Boès où saint Thomas montre ce qu'on peut abstraire et ce qu'on ne peut pas abstraire. Ce qui est lié essentiellement à une réalité ne peut pas être abstrait de cette réalité. Or, en Dieu, le co et le quod sont un. En Dieu, la nature divine implique la subsistance, et donc en Dieu, le point de vue de la nature et de Dieu ne peut pas se séparer. Mais je peux distinguer ce qui n'est donné par la foi, c'est qu'il y a l'unité de Dieu et les trois personnes en vie. C'est sûr, ça, c'est le jugement de foi nous donne les deux. Ce qui justifie le traité des De Uno, le traité de la Trinité. Alors c'est intéressant, c'est, vous voyez, c'est que c'est à propos comme ça d'un ad primum qu'on retrouve toute la justification du De Uno et du De Trinitrino. C'est là, parce que c'est des objections qu'on vous fera, ça. Hein. Comment se fait-il que saint Thomas parle de l'unité de Dieu en théologie? Ça, c'est de la philosophie. Non, c'est de la théologie. Et il faut voir l'unité de Dieu, il faut voir la simplicité de Dieu en premier lieu pour entrer plus divinement dans le traité de la très sainte Trinité. Si je n'ai pas vu la simplicité de Dieu, je ne peux pas saisir le mystère de la très sainte Trinité. C'est par le point de vue de la simplicité que j'entre dans le traité de la très sainte Trinité. Alors que on ferait l'inverse, nous. Vous voyez, regardez tout de suite la seconde objection, c'est pas la peine de voir. Même si l'on fait abstraction de la personnalité des trois personnes, il reste encore dans l'intelligence un Dieu personnel unique, ainsi que les Juifs l'entendent. Voilà. Il revient là à l'écriture. Alors c'est pas le... Tandis que là, en prenant le quod est et le co est, ça fait appel à tout le traité du De Deo Uno. À cette personne, l'assomption peut se terminer tout aussi bien qu'à la personne du Verbe. Ad quod poterit terminari assomption, sic ut nunc dicimus, c'est pas tout à fait aussi la traduction, mais tout aussi bien, c'est pas tout à fait la même chose. N'est-ce pas? Ad quod poterit terminari assomption, sic ut nunc, comme maintenant, de facto. Dicimus eam terminari ad personam verbi. Donc, corrigez un tout petit peu, parce que tout aussi bien, c'est pas tout à fait la même chose. C'est deux niveaux différents, tandis que tout aussi bien change ces deux niveaux. Vous voyez ? D'un côté, c'est l'intelligence du mystère de Dieu qui nous permet de dire que l'assomption peut se terminer à la personne de Dieu en tant que Dieu est un. Oui. Et de l'autre côté, on voit en fonction du mystère qui m'est révélé, donc le de facto. Alors, voyez, l'abstraction faite de la personnalité, on dit que rien ne reste en Dieu lorsque cette abstraction est faite par mode d'analyse, car cela supposerait qu'autre chose est le sujet de la relation, autre chose la relation elle-même. Or, tout ce que l'on envisage en Dieu doit l'être comme suppôt subsistant. Cependant, l'on peut considérer certains attributs de Dieu sans les autres, non pas par mode d'analyse, mais de la manière dite déjà, non pas par mode résolutionniste. Vous voyez, est-ce qu'il faut traduire per modum résolutionniste par analyse ? Voilà, c'est une question aussi intéressante à se poser. Oui. Regardez la manière dont est posée l'objection. Hein. 3. Dans le premier article de cette somme, l'on a dit que dans la divinité, si l'on abstrait la personnalité, il ne reste rien. Mais celui qui assume est quelque chose de réel. C'est donc que sans la personnalité, la nature divine ne peut assumer. Alors, saint Thomas répond de cette manière. Hein. Abstraction faite de la personnalité. On dit que rien ne reste en Dieu lorsque cette abstraction est faite par mode d'analyse, per modum resolutionis. Est-ce qu'on doit traduire le per modum resolutionis par mode d'analyse? Je ne crois pas. Ce n'est pas la même chose. Analyser et résoudre. Per modum resolutionis, par mode de... c'est l'aspect ultime, on résout la chose, vous voyez. Et c'est ce qu'il dit ici quand il dit abstract, donc la personnalité étant abstraite par l'intelligence, rien n'est dit demeurer per modum resolutionis. Quasi aliud sit quod subjicitur relationi et aliud per et aliud ipsa relatio. Quia quid consideratur in Deo, consideratur ut suppositum subsistens. C'est la question de l'ad et de le in. Hein? Oui. Alors là, c'est toute la question du mystère de la très sainte Trinité. La relation est l'ad. C'est celui-là que j'attribue à Dieu. Parce que le in est dans l'ad. En Dieu. C'est une relation subsistante. Et c'est pour ça que, retirant la relation, je retire tout. Per modum resolutionis. Ce n'est pas le point de vue de l'analyse. C'est la résolution. C'est parce que dans l'ad est l'in. Et c'est vrai, en Dieu. Le in n'est pas séparé. Mais si je pouvais séparer les deux, nous pouvons séparer le sujet d'une relation et la relation. En Dieu, je ne peux pas séparer le sujet de la relation et la relation, parce que la relation subsiste. Oui. Alors, c'est une autre manière de regarder le quad et le co. C'est très très joli. Le co et le quad, c'est pris du côté essentialitaire, et ici, c'est pris du côté personnalitaire. Et on retombe sur ses pattes, si j'ose dire. Vous voyez, les deux manières. Hein. Et ça, c'est très très joli, au point de vue manière de concevoir. Ici, c'est le Dede Uno, ici, c'est le De Trino. Je n'insiste pas plus, hein, parce que j'ai peur qu'autrement que les intelligences éclatent. Alors, article 4. L'une des personnes divines peut-elle assumer la nature créée sans l'autre? Mais c'est pas parce que je... C'est très intéressant, c'est la subtilité du théologien. Là. Ça, c'est très très nettement la subtilité du théologien. La deux manières d'aborder le mystère de Dieu. L'aborder par les personnes, l'aborder par l'unité. Et des deux côtés, on rejoint la même réalité. Donc, l'une des personnes divines peut-elle assumer la nature créée sans l'autre? Denis enseigne que le mystère de l'incarnation appartient à la théologie discrétive, d'après laquelle on fait une distinction entre ce qui se dit de chacune des divines personnes. Là, c'est encore autre chose, ça soulève un tas de choses. La théologie discrétive, a discretam theologiam. Vous savez que c'est, regardez dans les noms divins, c'est dans le prologue des noms divins, où Denis fait la distinction entre le mystère de Dieu regardé dans son unité et le mystère de Dieu regardé dans la division, dans la distinction des personnes. Alors c'est ça qu'il appelle la théologie discrétive. Donc la discrétion, c'est-à-dire la distinction qui existe entre les deux personnes. Autrement, la théologie unitive. Une question de mots, il faut simplement savoir. Hein. Alors, je regarde le corps de l'article. L'assomption comporte deux choses. Assomption duo importat. l'acte de celui qui assume le terme de l'assomption. Saint Thomas l'a déjà dit, hein, tout est commandé par ça. Qu'est-ce que c'est que l'assomption? L'assomption implique un acte qui assume et le terme de l'assomption. L'acte qui assume relève de la nature, le terme, la personne. Hein. Rappelez-vous bien ça. L'acte d'assomption provient de la divine puissance qui est commune aux trois personnes divines. Donc, qui est la nature, ça relève de la nature, la toute-puissance. Mais le terme de l'assomption, c'est la personne ainsi qu'il a été dit. C'est pourquoi ce qui dans l'assomption relève de l'agir est commun aux trois personnes. Ce qui au contraire a raison de terme convient à une seule personne et non aux autres. De sorte que les trois personnes ont fait que la nature humaine fût unie à la personne du Fils. Très simple à comprendre, tout simplement, il n'y a aucune difficulté là-dessus. Article 5, une personne divine, autre que celle du Fils, pouvait-elle assumer la nature humaine? Ça aussi, c'est très facile à comprendre. Vous voyez, prenez ça, prenez comme l'arête, hein, c'est ça qu'il faut saisir, parce que dans toute question, n'oubliez jamais, l'unité dans Saint Thomas, c'est pas l'article, c'est la question. De sorte qu'on pourrait organiser les questions autrement. Il y a des vitraux de Chartres. Il faut très bien comprendre ça. C'est très analytique. C'est une analyse qui est très nette. Alors, ici, on regarde qu'est-ce que c'est qu'assumere. On voit que dans l'assomption, assumer, il y a deux choses. Il y a une action et le terme de l'action. L'action comme telle relève de la nature divine et donc des trois personnes divines dans leur unité. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une action qui est extra, qui est en dehors, qui n'est pas à l'intérieur, qui n'est pas ad intra, qui est ad extra. Tout ce qui est ad extra relève de l'unité de Dieu. Parce que c'est l'efficience. C'est la toute puissance. Ça relève de l'unité de Dieu. Tandis que tout ce qui est ad intra, les trois personnes divines, ont ad intra des distinctions qui se font. Or, quand il s'agit de l'assomption, il y a à la fois ad extra et ad intra. Et c'est ça qui est beau à voir, hein, et c'est ça qui est intéressant à voir. C'est que quand il s'agit du mystère de l'assomption, du mystère de l'incarnation, il s'agit à la fois de Dieu qui assume une nature extrinsèque à la sienne. Donc ça, c'est ad extra. Il assume ad intra. Et donc, c'est terminé à une personne. Donc, on est à la frontière, si vous voulez, du mystère de la très sainte Trinité ad intra et du mystère ad extra. La création n'exclut pas l'assomption. Et la très sainte Trinité n'exclut pas l'assomption. On est donc en face de quelque chose de nouveau qui fait appel à la fois à quelque chose qui fait que Dieu sort de lui-même et que Dieu, en sortant de lui-même, ramène la nature humaine à l'intérieur même du mystère de la très sainte Trinité. Et c'est pour ça que ça se termine à la personne. L'efficience est ad extra. Et cette efficience a ceci de tout à fait particulier, c'est que le terme de cette efficience n'est pas quelque chose d'extérieur comme la créature. La créature était quelque chose d'extérieur. Ce terme de cette efficience se termine à l'intérieur même de la personne même. C'est ça qu'il faut essayer de contempler. Hein. Alors là, c'est très très beau. Hein. L'analyse elle-même peut-être est plus difficile, mais il faut essayer de saisir ce qu'il y a de grand à travers cette analyse. Alors, réponse. Tout ce que peut le Fils, le Père le peut également. Ça, c'est un grand principe. Hein. Quid, quid, potes, filius, potes, pater. Hein. C'est évident. Il n'y a pas certaines choses que le Père peut faire, que le Fils ne peut pas faire, certaines choses que le Fils peut faire, et que le Père... Non. Tout ce que peut le Fils, le Père le peut. Parce que dans leur activité, ad extra, comme créateur, ou comme réalisateur de quelque chose qui est autre que le mystère même de Dieu, la toute-puissance est unique, elle est la même. Autrement, les trois personnes ne posséderaient pas même puissance. Or, le Fils a pu s'incarner, donc le Père et le Saint-Esprit auraient pu le faire aussi. Ce que peut l'un, l'autre le peut, sans rivalité. N'est-ce pas ? C'est le propre du mystère de Dieu. Tout ce que, donc, la Saint Thomas va donner, l'Assomption, avons-nous dit, comporte deux choses, l'acte d'assumer et le terme de l'Assomption. On commence à le savoir. Il faut plusieurs fois, là, vient le comprendre, l'acte d'assumer et le terme de l'Assomption. Le principe de l'acte est la vertu divine, la source, cause efficiente. Le terme est la personne. La vertu divine est commune et se réfère indifféremment à toutes les personnes. La personnalité, dans ce qu'il a défini comme telle, est également commune aux trois personnes, bien que les propriétés personnelles soient différentes. Vous voyez l'abstraction personnalité. La personnalité est la même aux trois personnes. Il n'y a pas une personne. Je ne peux pas dire que le Père est plus personne que le Fils. Non. La personnalité est la même. Or, quand une vertu active se porte indifféremment sur plusieurs objets, son action peut se terminer à l'un.